for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique qui vaut sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis au micro de présentation John Lyndon. Georges Léonard Sagno et Fred assurent la production de cette émission mise en onde par Suleiman. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Les Américains ont choisi le 8 novembre dernier de porter à la tête de leur pays un outsider, l'élection surprise de Donald Trump, dont on dit qu'elle menace aussi le bilan de Barack Obama à briser les rêves de la démocrate Hillary Clinton de devenir la première femme à accéder à la présidence, alors même que la quasi-totalité des sondages la donnait gagnante. Quels enseignements tirer de cette élection? C'est la question principale de l'Amérique et vous cette semaine. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous aurons Nyaka Lagoké, professeur d'université et spécialiste des relations internationales et de politique africaine. Nyaka Lagoké, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, désolé d'écorcher un tout petit peu votre nom. Nous aurons également le professeur Ahmad Mahamad Hassan, qui est constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. Il n'est pas encore en ligne. Et puis, dans ce studio, je recevrai Bagassi Koura, qui est un collègue et journaliste et qui a suivi, tout comme vous et nous, cette élection présidentielle. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors, Nyaka Lagoké, votre première réaction après cette élection, qu'on dit une élection surprise de Donald Trump, est-ce qu'on s'y attendait ou pas?
Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour l'opportunité pour discuter de cette élection. La deuxième chose que je dirais, c'est que je n'ai pas suivi cette élection comme j'ai suivi celle de Barack Obama en 2008. Quand je dis suivi, je parle de la campagne, tout cela. Mais j'ai beaucoup lu, on a suivi les émissions. Et donc, si on voulait écouter les sondages, bon, c'était une élection impossible. Aujourd'hui, c'est une surprise pour tout le monde. C'est un tremblement de terre. Qui l'eût cru? Que celui qui a été présenté comme fasciste, et il est fasciste. Celui qui a été présenté comme raciste, et il est raciste. Celui qui a été présenté comme sexiste, et qui est vulgaire, bouffon, deviendrait président, et il est devenu président. Cela démontre que tout ce qui paraît impossible est du domaine du possible.
Alors, est-ce que ce n'est pas un procès d'intention, en fait, tout au moins pour ce qui est de comment il va diriger le pays, qu'on est en train de faire à Donald Trump?
Bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une sorte de procès de tension, mais en même temps aussi, je pense qu'il faut quand même que les gens essaient de voir que selon leur système politique, il a eu la majorité, donc il devient président. Mais en même temps, c'est sur la base de ce que lui-même il a dit. Il a fait tellement de déclarations fracassantes que bon, ça va le rattraper d'une façon ou d'une autre. Mais je pense quand même que si les médias américains et l'establishment politique américain ne fait pas attention, l'Amérique va devenir beaucoup plus divisée. Elle est déjà très divisée parce que c'est les blancs qui sont dans le monde rural et qui ont voté pour lui, ou la majorité blanche qui a voté pour lui, si elle aussi décide peut-être de sortir et faire des manifestations, donc à un moment donné, on peut rentrer dans un cycle d'un processus qu'on ne pourrait ne pas contrôler. Et donc, je pense que le président qui est encore en exercice, Obama et les autres, devraient faire en sorte, et les responsables locaux, pour que ce qui se passe là puisse être contrôlé et neutralisé, quoi.
Alors, Bagassi Koura, vous, quelle est votre réaction et comment vous expliquez que malgré tout ce que Nyaka Lagoké vient de dire, que les gens se disent sur Donald Trump, les Américains l'aient quand même choisi?
Oui, les Américains l'ont choisi et ça a surpris hein, la plupart des observateurs. On n'a pas vu ça venir. Apparemment, il y avait une majorité silencieuse des gens qui souffraient peut-être dans leur coin et qui ont saisi l'occasion de ces élections pour s'exprimer et peut-être, comme on dit souvent, hein, envoyer un message à l'élite à Washington. Ce qu'il faut dire, c'est que on peut s'inquiéter, mais on ne sait vraiment pas comment Donald Trump va se comporter une fois au pouvoir, parce qu'il n'est pas un républicain dur comme on le sait. C'est pas un Tea Party guy, c'est pas un conservateur pur sang, puisqu'il a financé des gens comme Nancy Pelosi, il a financé la famille Clinton, Hillary Clinton, à chaque élection, il les finançait. Donc, on ne sait pas vraiment si ces propos qu'il tenait, c'était juste pour répondre à un besoin de l'électorat, donc, ou il croit vraiment à ce qu'il dit qu'il va faire, par exemple, construire ce long mur hein, qui va coûter beaucoup d'argent. On ne sait pas s'il va vraiment continuer sur cette lancée-là. Il avait promis de déporter 2 millions de personnes et les gens avaient fait le calcul, hein, ça demanderait beaucoup de moyens, beaucoup de policiers pour faire ce travail-là. Et comme les républicains sont toujours sensibles sur les questions de déficit budgétaire, c'est des questions qu'on se pose. Hein, où est-ce que Donald Trump va trouver 1 000 milliards de dollars ou plus pour faire les constructions d'infrastructures, pour faire le mur, pour avoir plein d'avions et de policiers dans les rues partout pour déporter les gens. On attend de voir comment ce parti, hein, qui est si sensible au déficit, va réaliser toutes ces dépenses-là.
Alors, c'est une élection qui a été évidemment bien suivie et beaucoup suivie en Afrique. Je vais essayer d'avoir une fois encore le professeur Ahmad Mahamad Hassan de l'université de N'Djamena. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Vous avez également suivi, comme beaucoup d'Africains, cette élection. Quel est votre sentiment à la fin du parcours?
Bon, écoutez, compte tenu de l'influence de l'Amérique dans les affaires du monde et donc dans tout ce qui se passe, que ce soit économique, politique ou tout le monde suit ce qui se passe aux États-Unis, même s'il s'agit du président d'abord, il est le président des Américains. Alors personne n'attendait M. Donald Trump qui avait dans la campagne fait peur à beaucoup de gens par rapport à la dureté de son discours. Mais alors cette élection à la fin de ce parcours nous donne une leçon, une Amérique qui a peur. Une Amérique qui a peur et c'est sur la corde de la peur que M. Donald Trump a construit sa victoire. C'est une Amérique qui a peur et une Amérique divisée. Une Amérique qui ressort divisée. Et cette Amérique qui a peur veut dire quoi? Est-ce que c'est une Amérique qui a peur par rapport à une politique de... Elle a épousé la politique de protectionnisme prônée par M. Donald Trump pendant la campagne. Quelle est la frange, quelle est la couche de population qui a peur et qui a eu une certaine influence dans cette bousculade, je dirais? Parce que tout le monde attendait la démocrate Hillary Clinton qui a beaucoup d'expérience, qui donnait un discours à poser. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, au niveau de l'Afrique, nous avons connu monsieur le plus africain des présidents américains, monsieur Obama, qui finit son mandat et qui nous a donné espoir avec son discours sur les institutions fortes plutôt que les hommes forts, la question de la démocratie, du respect des droits humains, etc., la rigueur dans la gestion des États et notamment dans les économies. Booster le développement et ouvrir les marchés par rapport à un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai qu'il ne peut rien changer, même s'il est d'origine kényane, il est africain. Mais alors, M. Donald Trump, pour l'Afrique, il nous éloigne. Nous avons connu la famille Bush qui avait donné un autre discours. Alors, mais nous avons connu Ronald Reagan il y a quelques années également. Nous avons connu ce qui s'est passé au Proche-Orient, notamment la question avec Gaddafi et autres. Alors maintenant, Donald Trump nous fait peur en Afrique. Alors, il a joué sur la peur des Américains, mais il nous fait également peur. Quelle politique va-t-il, est-ce qu'il va s'intéresser à l'Afrique? Est-ce qu'il va voir la question des intérêts? D'abord, il est américain, il sert l'Amérique, il est élu par des Américains, et c'est aux Américains qu'il doit des résultats par rapport à la montée puissante de la Chine, en Afrique, de l'économie et des énergies.
Alors, on va parler de tout cela. Permettez que je prenne cet auditeur qui nous appelle. On a parlé beaucoup de sondages au cours de cette élection, et d'ailleurs, tout le monde a eu faux, ou presque. Théodore Ndjamena, bonsoir.
Bonsoir, la voix de l'Amérique, bonsoir, tous ceux qui connaissent Arcelor Théodore Ndjamena.
Alors, c'est vous qui parliez justement des sondages qui ont été déjoués. Comment vous expliquez ça à votre niveau?
Effectivement, le président des États-Unis élu, Donald Trump, a déjoué le sondage et est un plus interfacé. D'après le sondage qu'avaient donné les institutions de sondage américaines, avant les élections, c'est Hillary Clinton qui était légèrement au-dessus. Mais Donald Trump a su déjouer ce sondage par sa politique lors de ses campagnes, parce qu'il disait que son objectif c'était d'abord de satisfaire les Américains. Après du coup, il était un peu contre les Hispaniques, les Afros, les musulmans. Et à un certain moment, certains des Américains l'ont cru intérieurement, mais à la vue, comme tout le monde disait que Donald Trump serait un président dangereux pour les États-Unis, bah, les gens admettaient, les gens disaient, alors que ces Américains disaient, si c'est le monsieur tenté de voter Donald Trump, est-ce qu'il n'y aura pas un changement? Donc, par les attitudes de vote concrètes, les Américains étaient massivement pour Donald Trump, qui a pris de 276 voilà, c'est une sortie d'intérêt.
Voilà.
Cela veut dire que c'est un président qui a été laissé par certains de certains républicains. Il y a certains des républicains qui ont même rejeté Donald Trump lors de la campagne électorale, mais de monsieur courageux qui le fait, il a dit, bah, même si certains me laissent, j'ai confiance envers ce peuple et je vais gagner. Il a même dit lors de cette campagne électorale que lorsqu'il perd les élections, il ne va pas reconnaître parce que le gagnant, c'est lui. Donc, il était précis de lui, et lorsqu'on est précis de lui, les résultats, c'est seulement nous faire campagne que nous sommes vainqueurs.
Voilà, merci. Merci Théodore. On va prendre une petite pause et on se retrouve juste après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
On va repartir au téléphone pour retrouver Bakary Keïta. Bonsoir, Bakary. Bakary Keïta.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute pour votre réaction.
Je tire toujours mon chapeau à Trump. Mais malheureusement, ce n'était pas notre candidat. Mais les Africains, on ne vote pas pour un président américain. Je suis assez que Trump, quand même, revoit, quand même, des de ses.
Voilà. Bakary, malheureusement, la communication n'est pas très bonne. Je vais revenir vers le professeur Nyaka Lagoké. À votre avis, pourquoi Trump a gagné et pourquoi Hillary a perdu?
Vraiment, merci beaucoup. C'est la question que j'attendais. Hillary Clinton a perdu pour plusieurs raisons. Généralement, c'est la tradition ici aux États-Unis, après deux mandats d'un président qu'on appelle là au pouvoir, les Américains ont tendance à voter pour le camp adverse. Donc ça fait partie de la pratique et de la tradition politique américaine. Donc ça veut dire que les challenges pour que Hillary soit réélu et soit élu étaient assez grands. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est l'héritage politique de Barack Obama lui-même, qui à un moment donné n'a pas pu répondre aux attentes du point de vue des réalités économiques des Américains. Et puis troisième élément, la politique étrangère des États-Unis et Hillary Clinton qui est perçue comme une femme qui qui est une va-t-en-guerre, elle a été impliquée dans la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, et puis le bombardement de la guerre en Côte d'Ivoire, le bombardement de Babolorant. Donc il y a une frange de la population américaine, mais dont les ancêtres ou les parents viennent de ces différents pays-là, qui ont estimé que cette femme ne devait pas devenir président des États-Unis. Et maintenant, autre élément, bon, son intégrité a été mise en cause, bon, elle est perçue comme une femme qui n'est pas honnête. Et donc, tous ces facteurs ont fait que l'enthousiasme dans son camp a été donc réduit, et donc c'est comme ça que beaucoup de personnes ne se sont pas mobilisées pour elle comme il se devait. Et autre élément, elle a fait une erreur aussi d'appréciation trop confiante. Elle a été choisie candidate du Parti démocrate. Elle n'est pas allée au Wisconsin. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas croire, mais elle l'a fait. Elle n'y est pas allée. Et en 32 ans, Wisconsin a toujours voté démocrate. Et là, avec Donald Trump, l'État de Wisconsin est passé du côté des républicains. Maintenant, pour revenir à Donald Trump, c'est vrai qu'il a surfé sur la vague fasciste et la vague raciste. Et puis, donc, 53% des femmes blanches ont voté pour lui. Une portion plus grande pour les hommes blancs. Oui, il y a le sanglot, pour citer un philosophe français, c'est le long sanglot blanc qui s'est révolté pour que les blancs essaient de reprendre le pouvoir comme ils le souhaitaient, dans la mesure où, après Obama, ils avaient le sentiment que le pays leur échappait. Mais il y a aussi le fait que Donald Trump a tenu un discours qui a résonné dans les oreilles des gens. Il a voulu contribuer à harmoniser les relations avec la Russie. Et quand on sait que les États-Unis et la Russie sont en conflit, on a peur d'une troisième guerre mondiale.
Alors, nous n'en sommes pas encore là, Bagassi Koura. Oui. J'ai eu, moi, le sentiment qu'à la fin, c'est plutôt Barack Obama qui battait campagne et pas Hillary Clinton. Est-ce que ça n'a pas défavorisé Hillary?
Vous pouvez reprendre votre...
Le fait que c'est plutôt Barack Obama qui menait beaucoup plus campagne. Hein. On a plus vu Barack qu'Hillary elle-même.
Oui, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas vraiment sûr, parce que Obama a une cote de popularité qui est assez bien, je crois que c'est 54%.
Oui, c'est l'une des meilleures.
Mais le discours, le problème qu'il peut avoir avec ça, c'est qu'il s'adressait à des gens qui souffraient. Donc si Obama était bien, pendant 8 ans, peut-être que ces gens seraient contents et donc n'iraient pas avec Donald Trump. Donc il y a ces gens qui disaient qu'on a perdu nos emplois, on ne nous écoute pas. Qui ne nous écoute pas, c'est Obama. Et c'est ce Obama-là que tu embarques pour faire le tour des États-Unis. Moi, je voudrais ajouter à ce que Lagoke a dit. Il y a aussi l'action du FBI qu'on ne peut pas totalement ignorer parce que à deux semaines, à peine deux semaines, 10 jours, des élections, il sort on a vu dans les sondages, tout a changé. Un coup, Donald Trump, qui tout le monde l'avait classé, voilà, sa campagne est revenue en vie et il a pu traverser le finish line, la ligne d'arrivée en tête de justesse, puisqu'elle a eu le vote populaire et lui, il a eu le collège électoral. Et donc, on ne peut pas négliger ce
volet-là. Professeur Ahmad, l'enseignant que vous êtes, comment est-ce que Donald Trump devrait se comporter dorénavant? Lui qui a des habitudes... que beaucoup n'apprécient pas. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est hier ou avant-hier, où son compte Twitter lui a été remis et il n'a pas fallu quelques heures pour qu'il recommence à tweeter en critiquant notamment les médias. Quelle est, à votre avis, la manière dont il pourrait gérer ça et se comporter vraiment comme un président?
Écoutez, le comportement déjà a mis des doutes dans la tête de beaucoup de gens, notamment c'est la manière de parler, la manière de se tenir, et il était même carrément assimilé à une certaine arrogance des riches et qui n'avait pas le style apaisé, qui n'avait pas le style d'un homme qui dirige la première puissance mondiale. Alors c'était une grande inquiétude pour certains. Certains de mes étudiants me disaient déjà après cette élection, est-ce que vraiment c'est pas quelqu'un qui est dérangé mentalement, qui va avoir la bombe nucléaire, le bouton de la bombe nucléaire de la première puissance mondiale entre les mains? Est-ce qu'il va pas sauter le monde? Alors beaucoup de questions qui sont posées sur ce Donald Trump. Mais vous savez très bien que juste après son élection, surprise je dirais, il a changé un petit peu de ton, il a changé un petit peu de discours. Et à la rencontre avec Obama, il est ressorti un peu apaisé, un peu raisonnable, en disant qu'il serait ravi de travailler avec le président américain, qu'il a beaucoup appris, etc. Et qu'il va toujours demander ses conseils, etc. C'est peut-être une nouvelle attitude qu'il affiche pour rassurer les gens qui étaient très inquiets par le contenu de son discours, par son style cow-boy, etc., que nous avons connu longtemps avec un certain Ronald Reagan.
Alors, professeur...
Voilà l'attitude.
Professeur Bagassi voudrait réagir à vos propos.
Oui, alors, professeur, vous avez parlé d'esprit cow-boy. On sait que Donald Trump dit qu'il va durcir le ton contre le groupe terroriste. Et on sait que N'Djamena est beaucoup engagé dans cette lutte dans le Sahel. Est-ce que c'est un message comment vous percevez ce message-là du côté de N'Djamena? Comment c'est perçu que ce soit un homme plus dur contre les terroristes qui arrivent en Amérique?
Déjà, les Américains sont déjà avec un contingent d'à peu près 300 marines GIS qui sont au Nigeria, à la frontière avec le Tchad. Et vous savez très bien que Boko Haram n'est pas totalement vaincu malgré l'implication de l'armée de mon pays. Boko Haram est entré dans les sociétés maintenant au Niger et également au Nigeria, mais il est entré dans les sociétés. C'est difficile aujourd'hui de faire la distinction entre un jeune qui est membre de Boko Haram et un autre qui ne l'est pas. Alors, est-ce que ce discours va dire qu'il va développer beaucoup plus de moyens, plus de drones, plus d'hommes, peut-être même une base au Nigeria et pourquoi pas au Cameroun déjà, où on annonce déjà le réchauffement des relations avec les États-Unis? Parce qu'il y a une chose très importante pour le Tchad, c'est que de l'autre côté, nous avons également l'État islamique qui menace déjà la Libye, où il y a pratiquement une cassure de l'État. Le pays est divisé en des clans et des tribus et des milices qui se partagent les puits du pétrole, etc., avec toutes les difficultés de faire un État central assez stabilisé. La question du Darfour n'est pas terminée. La question de la Centrafrique n'est pas terminée. Donc, c'est une zone assez fragile, assez poreuse, avec des frontières que vous connaissez. Le Niger qui ne contrôle pas l'extrême nord, avec tous les trafiquants des armes, des drogues et tout, et les djihadistes qui n'ont pas totalement disparu au nord du Mali. Alors, on s'est dit, peut-être qu'avec cet homme de fermeté, peut-être que les armées africaines qui ne sont pas totalement assez efficaces pour protéger leur propre intégrité territoriale et assurer la sécurité des États, peut-être qu'il va avoir une sorte de développement des moyens avec ce discours ferme, parce que les Américains, leur ennemi numéro un, c'est l'État islamique, c'est le terrorisme, et ça c'est depuis quelques années. Alors est-ce que vraiment, est-ce que c'est vraiment du côté sécurité seulement que l'Afrique a besoin, ou le Sahel a besoin, qui est menacé par ce genre d'instabilité, de terrorisme, de trafiquants et autres? Alors ou bien c'est de pouvoir également développer et détruire les terreaux de la pauvreté et de la misère qui fait le lit du terrorisme et le recrutement des jeunes innocents dans la zone du lac Tchad, qui est une zone de non gouvernée, qui est une zone non contrôlée,
voilà,
le développement des armées et le G5 qui fait ce qu'il peut, mais avec le déploiement même de l'armée française.
Merci professeur. On va prendre Boubacar Drogba Balo qui nous appelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, votre réaction en quelques secondes. Allô?
Oui, allô?
Oui, votre réaction sur ce sujet.
Concernant comme l'élection présidentielle.
Tout à fait, nous parlons de l'élection de Trump à la présidence.
Donald Trump.
Oui.
Ah, okay.
Quel enseignement vous tirez de l'élection de Donald Trump?
Bon, moi, je félicite la population de l'Amérique.
Voilà. Merci. Merci pour cela. Je voudrais lire cette réaction d'Alphonse Mbouaki qui dit « L'échec de Mme Clinton ne veut pas dire que les femmes qui viendront plus tard échoueront toujours un jour, d'autres réussiront. » Bagassi voudrait...
Oui, j'avais une question pour Lagoké. Hein. Vous connaissez mieux les mouvements activistes ici aux États-Unis. Rapidement, à quoi peuvent aboutir ces manifestations de rue là? À quoi ça va servir?
Rapidement, je pense que c'est l'élection de Donald Trump est une opportunité pour les mouvements qui sont encore endormis et pour ceux qui pensent que l'Amérique est une société idéale de s'organiser parce qu'il y a tellement d'injustices encore dans ce pays. Donc pour mieux s'organiser, la même chose aussi pour les Africains. C'est comme ça que nous voyons et peut-être la politique isolationniste que Donald Trump est en train de promouvoir, s'il la met en pratique, cela peut donner un espace de liberté à ceux qui sont des souverainistes et panafricanistes aux États-Unis et en Afrique, parce que nous sommes aussi fatigués de l'intervention de la France dans nos affaires domestiques.
Ok, donc merci à tous nos invités, merci au professeur Ahmad Mahamad Hassan du Tchad, merci à Nyaka Lagoké, merci à Bagassi Koura. John Lyndon présentait cette émission, Fred assurait la production, Suleiman était à la mise en onde. Merci d'avoir suivi, restez à l'écoute des programmes de VO Afrique sur voafrique.com et suivez-nous sur Facebook. Bonsoir.